Voici l'abécédaire de la der des der. S comme septième continent. Autant certaines îles sont menacées de disparaître avec la montée des mers, voire émissions précédentes sur le réchauffement climatique et les réfugiés climatiques, autant certains espaces émergent des flots. Dans le nord-est du Pacifique, entre la Californie et Hawaï, les déchets produits par les activités humaines et déversés dans les océans sont acheminés par les courants marins vers un nouveau continent dont la taille atteint près de 3,5 millions de kilomètres carrés. Ce que l'on appelle septième ou huitième continent est en réalité une masse fluctuante, une plaque de déchets située dans le gyre subtropical du Pacifique Nord, aussi connu sous le nom de soupe plastique, de vortex d'ordure ou encore de grande zone d'ordure du Pacifique. Et cette soupe de plastique s'étend à grande vitesse. Une plaque similaire a été découverte dans le nord de l'océan Atlantique. C'est l'océanographe américain Charles J. Moore qui a découvert cette grande zone d'ordure du Pacifique. Comme cette mer de déchets est translucide et se situe juste sous la surface de l'eau, elle n'avait pas pu être détectée par les photographies prises par satellite. Elle est seulement visible du pont des bateaux. Cet ancien marin a traversé la mer de déchets par hasard en 1997 en prenant un raccourci durant une régate allant de Los Angeles à Hawaï. Il avait dirigé son navire dans le tourbillon du Pacifique Nord, un vortex où l'océan circule lentement compte tenu du peu de vent et des systèmes atmosphériques de très haute pression. Les marins l'évitent en général. Il a été atterré de se voir entouré de déchets, jour après jour, à des centaines de miles de la Terre. À chaque fois que je montais sur le pont, je voyais des déchets flotter, dit-il lors d'un entretien. Comment pouvons-nous avoir souillé une telle surface? Comment est-ce possible que cela ait duré toute une semaine? Ironie du sort, et vous allez comprendre pourquoi, Monsieur Moore est l'héritier d'une famille qui a fait fortune dans l'industrie du pétrole. Il a par la suite vendu ses actions et est devenu un militant de la cause environnementale. Au début, les gens se sont imaginés que c'était une île de déchets plastiques sur laquelle on aurait pratiquement pu marcher. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est pratiquement une soupe plastique, précise Marcus Eriksen, l'un des directeurs de recherche de l'Algalita Marine Research Foundation. Selon des observations effectuées depuis plus de 15 ans par cette même fondation, sous l'effet des courants marins, les déchets provenant des littoraux et des navires flottent pendant des années avant de se concentrer dans deux larges zones connues sous le nom de plaques de déchets du Pacifique Est, ou Eastern Pacific Garbage Patches, et plaques de déchets du Pacifique Ouest, ou Western Pacific Garbage Patches. Ces deux plaques forment la Grande Plaque de déchets du Pacifique, ou Great Pacific Garbage Patch, un monstre dont la taille aurait déjà triplé depuis les années 90 et qui s'étendrait sur plus de 3,45 millions de kilomètres carrés, soit un tiers de la superficie de l'Europe ou encore 6 fois la superficie de la France, ce qui en fait la plus grande décharge mondiale. Il est estimé que ce continent de déchets totalise un poids de 3,5 millions de tonnes et jusqu'à 750 000 débris par kilomètre carré. Et ces chiffres datent de 5 ans. Selon Chris Parry, chef de programme d'éducation du public de la California Coastal Commission de San Francisco, depuis plus de 50 ans, les déchets tourbillonneraient sous l'effet du gyre subtropical du Pacifique Nord et s'accumulent dans cette zone peu connue. Peu de routes commerciales et peu de bateaux de pêche l'empruntent. Et de fait, un gyre est un gigantesque tourbillon d'eau formé d'un ensemble de courants marins. Pas trop envie de s'aventurer par là. À l'image d'un puissant siphon marin, le vortex attirerait vers lui tous les résidus produits par nos sociétés marchandes. Toutefois, contrairement au siphon, les déchets ne sont pas aspirés, mais accumulés et bien visibles. Et quand ce vortex se rapproche des terres immergées, comme cela se passe aux abords de l'archipel hawaïen, les résultats sont terribles. L'accumulation de déchets se déverse, recouvrant les plages de confettis de plastique. Des recherches sont en cours pour estimer la taille et la nature exacte de cette soupe plastique. On pense que le plastique constitue 90% de tous les déchets flottant dans les océans. À peu près un cinquième des débris est jeté par-dessus bord de bateaux ou de plateformes pétrolières. Le reste vient de la terre ferme. Le programme environnemental des Nations Unies a estimé en juin 2006 qu'on trouve en moyenne 46 000 morceaux de plastique par 2,5 km² d'océan sur une profondeur d'environ 30 mètres. Jusqu'alors, les débris flottants étaient détruits par les micro-organismes, mais cela n'est plus le cas avec l'arrivée du plastique. En effet, les plastiques modernes sont tellement résistants que des objets datant d'un demi-siècle ont été trouvés dans la décharge du Pacifique Nord. Chaque petit morceau de plastique conçu pendant les 50 dernières années ayant atterri dans l'océan est toujours là-dedans, quelque part, déclare Tony Andrade, un chimiste du Research Triangle Institute basé aux États-Unis. Et ce quelque part, ce sont ces continents de déchets plastiques constitués de déchets épars visibles à l'œil nu, sacs plastiques, bouchons, briquets et tout ce que l'esprit humain a pu fabriquer en bidule avec ce matériau qu'est le plastique, mais surtout de petits éléments invisibles sans une fine observation. C'est en filtrant l'eau que l'on découvre une mixture composée de très petits morceaux de plastique qui se sont fractionnés, mais aussi de granulés de plastique qui sont utilisés comme matière première pour fabriquer les 10 objets en plastique. Rebecca H., chercheuse à l'Institut océanographique Scripps, indique que, dans ces zones, les déchets ont été dégradés par la lumière du soleil et les courants océaniques. Donc, ça n'a rien à voir avec une bouteille ou un sac en plastique. Ce sont de tout petits morceaux de plastique de la taille d'un confetti. En fait, ils ont la même taille que le plancton dont se nourrissent les poissons. C'est pour ça qu'ils mangent le plastique. C'est parce qu'ils le confondent avec du plancton. En certains endroits, la quantité de plastique dans l'eau de mer est jusqu'à 10 fois supérieure à celle du plancton, maillon élémentaire de la vie dans les océans. On parle alors de plancton plastique. Selon Greenpeace, sur les 100 millions de tonnes de plastique produits chaque année, près de 10% finissent dans les océans. 70% de ces plastiques coulent et le reste va flotter, naviguant au gré des courants. Avec de telles concentrations de plastique, c'est toute la chaîne alimentaire qui est affectée puisque les plus petits morceaux sont ingérés par des oiseaux, des petits poissons qui seront à leur tour mangés par de plus gros, etc. On connaît l'histoire. De plus, le temps nécessaire à la dégradation de ces plastiques est très long, entre 500 et 1000 ans, et on redoute la toxicité des éléments qui les composent. Ainsi, ces déchets seront mortels pendant des décennies pour de nombreuses espèces marines. Ils leurrent les oiseaux, les poissons, les mammifères marins et les tortues et rentrent à leurs dépens dans leur régime alimentaire, provoquent des occlusions, des étouffements, des pertes d'appétence et des troubles de la mobilité. D'après le programme environnemental des Nations Unies, les débris de plastique causent la mort de plus d'un million d'oiseaux marins chaque année, ainsi que celle de plus de 100 000 mammifères marins. Des bouchons, des briquets et autres débris de plastique ont été trouvés à l'intérieur des estomacs de mouettes mortes, qui les ont confondus avec de la nourriture. Voir pour cela le film Midway, dont le teaser est visible sur le net. Selon des scientifiques américains de l'Institut océanographique Scripps, un poisson sur 10 ingère du plastique dans le Pacifique Nord, soit 24 000 tonnes de plastique boulottées par des poissons chaque année dans cette zone. Le docteur Eriksen va plus loin et avertit qu'il y a également un risque pour la santé humaine. Ces polluants agissent comme des éponges chimiques, attirant des substances créées par l'homme, comme les hydrocarbures et les polluants organiques persistants, ou POP. Ainsi, DDT et PCB se retrouvent dans des morceaux de plastique à des concentrations jusqu'à 1 million de fois supérieures au normal. Ensuite, ils entrent dans la chaîne alimentaire et donc dans les assiettes des plus terribles des prédateurs, nous. Le nettoyage de ces plaques de déchets paraît insurmontable et pas du tout à l'ordre du jour. Remarquez parmi vous qui en avait entendu parler. La superficie à couvrir est trop importante et les coûts seraient colossaux selon Marcus Eriksen. Afin d'avoir plus d'éléments corroborant l'ampleur de ce phénomène, plusieurs missions ont été lancées à l'assaut du continent de déchets, comme celle de l'Algalita Marine Research Foundation, le projet Keizai et celle du CNES. Près de 15 ans après sa découverte, ce terrifiant monstre marin engendré par nos activités semble enfin susciter un peu d'intérêt. Et comme si cela ne suffisait pas, suite au séisme dramatique qui a frappé le Japon en mars 2011 et qui a généré un puissant tsunami, une quantité considérable de déchets divers et de matériaux en tout genre, quelques millions de tonnes, dont certains sont très toxiques, voire radioactifs, ont été en partie charriés vers l'océan Pacifique, alimentant encore plus ce continent de déchets en formation. Les 25 millions de tonnes de déchets terrestres produits par la double catastrophe du 11 mars 2011 sont sous la responsabilité des autorités japonaises. Mais les déchets aquatiques, eux, deviennent un problème international. Il est temps de mettre en œuvre des conventions et des moyens logistiques d'assistance mutuelle pour collecter, après les catastrophes naturelles, les flux de déchets qui rejoignent la mer, avant leur dispersion et leur multiplication par fragmentation, insiste l'association Robin des Bois. En attendant, la soupe pourrait doubler de taille durant la prochaine décennie. Et comme pour s'affranchir des limites de notre planète poubelle, les humains ont déjà commencé à polluer l'espace. Des déchets en orbite. Il y a actuellement plus de 20 000 tonnes de matériaux et 25 500 objets divers en orbite autour de la Terre, parmi lesquels il ne reste que 595 satellites opérationnels, représentant une masse de 4 500 tonnes. Parmi ces objets spatiaux, on dénombre 15 680 débris de plus de 10 cm, orbitant entre 400 et 1 500 km d'altitude. 100 000 objets d'une taille inférieure à 10 cm sont en orbite basse et il devrait y avoir des centaines de milliers de débris de taille inférieure au centimètre pour un total de quelque 35 millions de débris si on s'attarde aux particules de moins d'un millimètre. Parmi ces débris spatiaux, 41% sont constitués de fragments, 13% sont des débris opérationnels, 17% des étages supérieurs de lanceurs et 22% sont des satellites qui ne sont plus en état de fonctionner, sans compter les éclats de peinture, les éjections de combustible, le liquide de refroidissement. Je vais vous lire un extrait d'un article de Sandra Besson paru en septembre 2011 intitulé « Les débris spatiaux en orbite autour de la Terre dans le viseur de la NASA ». Les débris spatiaux en orbite autour de la Terre sont de plus en plus nombreux et la NASA tente de trouver des solutions pour réduire le risque de collision dans l'espace.
La quantité de débris en orbite autour de la Terre a atteint un point culminant pour les collisions qui généreront en retour davantage de débris, menaçant les astronautes et les satellites, d'après une étude américaine datant de septembre 2011. La NASA doit se doter d'un nouveau plan stratégique pour limiter les dangers représentés par les fusées usagées, les satellites endommagés et les milliers d'autres déchets qui orbitent autour de la planète à une vitesse de 28 000 km/h. Les débris en orbite représentent une menace pour les quelques 1000 satellites commerciaux, militaires et civils qui aussi orbitent autour de la Terre. La première collision spatiale au monde a eu lieu en 2009 lorsqu'un satellite de communication Iridium est entré en collision avec un satellite russe non opérationnel, générant des milliers de nouveaux déchets en orbite. La collision a fait suite à la destruction en 2007 par la Chine de l'un de ses satellites météo dans le cadre d'un test de missile anti-satellite. L'environnement spatial actuel devient de plus en plus dangereux pour les vaisseaux spatiaux et les astronautes, a déclaré Donald Kessler, ancien directeur du programme pour les débris en orbite de la NASA. Certains modèles informatiques montrent que la quantité de débris en orbite a atteint un point culminant, avec actuellement suffisamment de déchets en orbite pour entrer en permanence en collision et créer encore plus de débris, faisant augmenter le risque de collision dans l'espace.
Ces nouveaux espaces colonisés par les poubelles nous font penser à quel point la réalité actuellement dépasse bien trop vite la science-fiction. Les sources de cette émission, un article de Hawaï au Japon, l'océan poubelle, mis en ligne en février 2008 par Cathy Marx et Daniel Howden, d'abord publié sur le journal Vie indépendante et repris sur le site Contre-Info. Également des articles parus sur le site notreplanète.info. Et puis l'article sur les débris spatiaux, extrait du site actualitenewsenvironnement.com. Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.